On va commencer la discussion de soccer immédiatement. Jérémy Filosa qui était prêt à faire feu d'ailleurs. Bon, rebonsoir Jérémy.
Salut Mario.
Alors dis-moi Jérémy, dans un premier temps, qu'est-ce que tu as pensé toi du week-end de la lettre de Joey Saputo ainsi que de la sortie de Nick DeSantis dans le vestiaire? Pas obligé de traiter les deux du même coup, mais ça, on dirait que c'est tout ensemble tout ça.
Oui, ben il semble que justement c'est Joey Saputo qui ait demandé à Nick DeSantis de descendre dans le vestiaire. Écoute, moi je pense que c'est pas une mauvaise chose parce que des fois là, t'es dans le vestiaire, faut que t'entendes une voix différente. Le coach a bien beau dire, essayer de passer son message jour après jour, quand ça fonctionne pas, puis ça on l'a vu autant chez l'Impact, on l'a vu chez le Canadien aussi. Marc Bergevin, c'est quoi? C'est l'année passée ou l'année précédente qui était descendu à un moment donné dans le vestiaire, parler aux joueurs. Écoute, moi, je pense qu'il n'y a rien de mauvais là-dedans. Ce qui agace les gens, c'est que ils se disent, ah ben c'est ça, finalement, Nick, on le savait bien, il a un plus gros rôle qu'on pensait, il est pas seulement dépisteur international, mais il est pas mal plus proche de l'équipe qu'on pensait. Écoute, je pense que c'est assez clair aux yeux de tout le monde que Nick a un rôle très important dans l'organigramme de l'Impact de Montréal. Tu sais, si dans le monde du hockey puis du baseball, on est rendu à vice-président opération baseball, qui est un peu le boss du directeur général, je te dirais que Nick, c'est à peu près ça, là, tu sais. Donc, moi, ça me dérange pas. Là, c'est sûr que là, l'information a coulé. Ce qu'on a su de plus aussi, c'est que Nacho s'est levé et Nacho a défendu les joueurs et Nacho a aussi dit... Les coachs aussi ont une part de responsabilité là-dedans. C'est pas juste les joueurs. Tu sais, là, on sait que Piatti, il a pas signé son contrat encore pour l'année prochaine. Puis, ça l'agace. Sinon, il serait pas sorti sur la place publique une couple de semaines pour en parler. Donc, est-ce que ça va aider ou nuire aux négociations? D'ailleurs, j'ai laissé plusieurs messages à l'agent de Nacho Piatti, qui malheureusement n'a pas, ne veut pas donner d'entrevue à ce sujet-là, mais...
Vincent Destouches est avec nous également. Bonsoir, oui. Vincent. Merci de t'être ajusté aussi rapidement face à notre appel. On devait le faire quelques minutes plus tard, mais on le fait tout de suite. Donc, tu as dit samedi, lors de la retransmission du match sur les ondes de TVA Sports, la saison et le match, c'est un gâchis, Vincent. Hein? Un gâchis.
C'est à ça que ça ressemble. On rappelle que l'Impact est finaliste de l'association Est, que l'an dernier, lorsqu'on a fait le bilan, lorsque Joey Saputo a fait le bilan et a présenté pour la première fois son plan quinquennal, on semblait aller de l'avant. Là, est-ce qu'on va de l'avant? Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'avoir fait quelques pas en arrière? Après, faut voir pourquoi. Je pense que c'est un petit peu trop tôt pour faire le bilan, mais on peut parler de plusieurs choses. Quand Mauro Biello, quand la direction pointe un peu du doigt les joueurs, ils ont en partie raison. On rappelle que sur certaines des signatures qu'ont effectué l'Impact, cette saison, il y a eu un sacré manqué. Je veux dire, Matteo Mancosu, on est à côté. Dominique Oduro, il a re-signé son contrat, il a marqué un seul but, c'est le 18 mars dernier. Et là, on parle déjà de deux joueurs qui sont partants, normalement, qui sont sur le 11 de départ. Donc, tu as des méformes individuelles. Après, il y a une responsabilité aussi de la part des entraîneurs, c'est évident. Et Ignacio Piatti a été... tout à fait prompt de le dire.
Oui, d'ailleurs.
Il y a eu des errements du côté de l'Impact, du côté de Mauro Biello.
Qu'est-ce qu'il identifie, Piatti, quand il réplique là, cette critique-là envers les joueurs, puis qu'il renvoie l'ascenseur un petit peu à la direction puis au coaching, et Jérémy et Vincent, mais amorce Vincent, s'il te plaît, là, pour aiguiller la discussion.
Ben, il fait juste dire la vérité. C'est facile à ce moment-là de l'année de rentrer dans le vestiaire et de dire c'est de votre faute, c'est entièrement de votre faute. C'est pas aussi simple que ça, c'est pas blanc ou noir. Il y a vraiment plusieurs notions de gris là-dedans et puis les coachs ont évidemment leur part de responsabilité. La méforme individuelle de certains joueurs, en grande partie, c'est leur dû, mais c'est aussi une responsabilité de la part des coachs de peut-être pas les avoir bien coachés ou bien gérés de la bonne manière. Les errements tactiques, le fait que à ce stade-là de la saison, si je te demande c'est quoi le match référence de l'Impact, t'es pas capable de m'en sortir un. Alors voilà.
Bon point, Jérémy. Toi, es-tu capable de sortir un ou quelques moments clés, soit vers la pente descendante ou vers... il n'a pas eu ben de pente montante. Tu as eu 4 victoires de suite. On s'est emballé. On a peut-être pensé qu'on avait fait ses rêves avant de finir la saison.
Non, mais écoute, Moi, j'identifie quelques erreurs que Mauro Biello a fait. Au mois de juin, par exemple, t'as une série de 3 matchs en 8 jours. Biello nous dit, regarde, voici le plan de match. On va y aller samedi avec les partants réguliers. Mercredi, on va y aller avec certains changements. Et samedi, on reviendra avec les réguliers. Finalement, il perd le match du samedi. Il change son fusil d'épaule. Le mercredi, il part son équipe A. Ils se font planter. Puis le troisième match, ils ont plus d'énergie. Ils se font planter 3 matchs en ligne. Ça, c'est une erreur qu'il a commis. D'avoir attendu trop longtemps avec Matteo Mancosu sur le 11 partant, ça a été une erreur. Jackson aurait dû être là plus de bonne heure. Le 5-3-2 qu'on a utilisé en Nouvelle-Angleterre, je peux te le garantir qu'il y a des gars dans ce vestiaire-là qui l'ont pas aimé, celle-là. Tu sais, quand t'as un système de jeu que t'as pas joué depuis la mi-juin, puis là, tu nous sors ça un peu comme un cheveu sur la soupe, alors que t'avais gagné 4 matchs consécutivement avec tous tes meilleurs dans un 4-3-3. Les joueurs l'ont pas apprécié. Ceci dit, pour moi, tu sais, de dire que c'est de la faute de Biello, si Mancosu, qui a eu toutes les chances au monde, a juste 4 buts, c'est non. Est-ce que c'est de la faute de Biello si Oduro a 1 but en toute l'année alors qu'il a joué pratiquement tous les matchs du mois de mars au mois de juillet? C'est non. Fait que tu sais, les joueurs, il faut qu'ils se regardent dans le miroir aussi. Pour moi, oui, il y a une part de responsabilité au coaching staff, mais je veux que les gens se rappellent que ce club-là a fait les séries les 2 dernières années. Ce club-là est allé en Ligue des Champions, en finale de la Ligue des Champions il y a 2 ans. Ce club-là est allé en finale de la conférence l'année passée. Donc, de tout jeter aux poubelles parce que cette année, ça va moins bien, je pense pas que c'est la raison de faire. Est-ce qu'on va mettre le coach dehors à chaque fois que le club fait pas les séries? Parce que si c'est ça, Mario, on va changer d'entraîneur à tous les ans ou à tous les 2 ans.
Ben, c'est pas comme si on l'avait pas fait chez l'Impact de Montréal, là, hein.
T'as raison.
C'était les portes tournantes à un moment donné. Là, on décide. Le ton de la lettre. D'ailleurs, Vincent, tu es d'accord, toi, avec le ton, la position qu'adopte Joey Saputo dans sa lettre? Et tu es d'accord avec la visite de DeSantis dans le vestiaire qui va beaucoup plus loin que la lettre?
Bah, la lettre, il faudrait déjà que je la comprenne. Parce que, en l'occurrence, moi je comprends que Joey Saputo veuille faire un communiqué, veuille montrer qu'il est en charge, que il n'accepte pas ce qui est en train de se passer. Mais le contenu de la lettre en tant que tel, il est flou. Pour moi, c'est très cryptique, hein, de dire on va apporter les changements nécessaires. Ok, mais c'est quoi les changements? De quoi on parle exactement? Puis on va offrir à nos loyaux supporters le soccer qu'ils méritent. Ça veut dire quoi ça aussi? Est-ce qu'on parle d'aller chercher des joueurs, d'aller acheter des joueurs? Si c'est le cas, pourquoi il y a une couple de mois à l'Assemblée des membres, on disait que c'était difficile de sortir l'argent dans le marché montréalais? Je sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que c'est difficile quand il reste 6 matchs de dire on va trancher dans le gras, dans l'effectif, il y a lui qui va partir, et puis dans le staff peut-être que lui il va partir. C'est sûr, je peux comprendre si c'est ça qu'il a dans un coin de la tête. On peut pas le dire nommément ici, ou alors on le fait tout simplement. Moi je pense pas que Mauro Biello va perdre son poste, très honnêtement, et je pense qu'il a mérité le bénéfice du doute là-dessus. Est-ce que les partisans montréalais, est-ce que même les observateurs sont déçus du jeu proposé par l'Impact de Montréal? Ça c'est oui, on est d'accord, le fond de jeu de l'Impact de Montréal est déficient depuis des années. Mais est-ce que cet homme-là a mérité peut-être d'avoir le bénéfice du doute? C'est la première année où l'Impact ne va pas faire les séries sous ses ordres, ok? Première année. Et quand tu regardes le contenu de la saison, là, on en a parlé, ton attaquant principal qui est dans le trou, Dominique Oduro qui marque pas un but depuis le 18 mars, il y a des circonstances à ça. Et on se rappelle qu'en MLS quand même, en MLS plus qu'ailleurs, le projet des clubs est norme, enfin est vraiment se fait autour d'entraîneurs. Ben Olsen, de côté de DC United, a déjà terminé avec son club dernier du championnat général de la MLS, puis l'année d'après a gagné l'association Est, parce qu'on lui a renouvelé sa confiance, parce qu'on s'était dit que c'était peut-être des erreurs d'effectifs. On se rappellera là aussi qu'en tout début d'année, avant même que le coup d'envoi de la saison ait été donné, il y avait une grande majorité des partisans qui disaient que la saison morte avait été très mal gérée, que c'était n'importe quoi, qu'on s'en allait dans le mur. Fait que si avant même qu'on ait commencé la saison, le consensus était que l'effectif n'était pas à la hauteur, à quel point c'est de la faute de l'entraîneur? Je fais juste poser la question. Peut-être que sa part de responsabilité est plus grande que ce qu'on pense. Moi, je n'en suis pas certain, mais à tout le moins, je pense qu'il a mérité le bénéfice du doute.
Moi, Mario, il faut rappeler aux gens que Mauro Biello n'a pas eu son club A sur le terrain avant le mois d'août. Il a joué le mois de mars, avril, mai, juin, juillet, en rapiéçant des morceaux. Il y en avait toujours un qui était pas disponible, blessé, suspendu, parti avec l'équipe nationale au mois d'août. Je veux dire, comment veux-tu t'attendre à ce qu'une équipe fasse les séries quand t'as passé 5 des 7 mois de la saison sans tes meilleurs joueurs. Ça n'a pas de bon sens, ça ne tient pas debout. Et comme vient de le mentionner Vincent, c'est une ligue où les choses changent vite. Tu sais, le fameux plan de 5 ans de Joey Saputo, au hockey, là, on peut en avoir un plan de 5 ans parce que les bons joueurs autonomes ne viennent pas à tous les étés. Ça prend du temps à bâtir une équipe. Au soccer, c'est pas comme ça. Si Joey Saputo décidait cet hiver sur le marché des joueurs autonomes d'aller chercher 3 stars puis les amener, le plan de 5 ans, tout d'un coup, il vient de raccourcir, là. Donc, tu sais, t'as des années où ça va bien. Quand t'es un club de milieu de peloton dans la MLS, comme l'Impact est, qui a pas 3 joueurs désignés, qui dépensent pas comme des fous, je peux les comparer, disons, à Kansas City, à Houston et tout ça. Ben, t'as des années où tu vas faire les séries. Si t'es chanceux, tu vas peut-être les faire 2 années de suite. Mais il y a des années aussi que t'y feras pas. Ça, c'est la réalité. Puis si on n'est pas capable d'accepter ça, puis il faut tout foutre en l'air à chaque fois qu'on rate les séries en MLS, alors que t'as 12 clubs seulement qui font les séries. Tu sais, au hockey, on en a 16. Mais au soccer, il y en a juste 12.
C'est très intéressant, les gars, vos arguments. Puis tous tiennent la route. J'aimerais vous amener sur un autre. Puis on va poursuivre cette discussion-là un autre tantôt. Mais l'histoire des joueurs désignés, là. Je sais que Joey Saputo, t'es pas tellement content de voir Toronto dépenser autant d'argent pour des Altidore, pour des Giovinco, pour des Michael Bradley. Mais reste que, est-ce que c'est ça qu'il faut faire maintenant pour être en mesure de battre ces équipes-là? Peut-être un 30 secondes chaque, Jérémy, commence.
C'est sûr que ça aide, absolument. Quand tu regardes des gars comme Joseph Martinez à Atlanta, par exemple, c'est des gars qui font la différence dans ton équipe. Je veux dire, imagine-toi là, si, au lieu d'avoir, par exemple, Mancoso en pointe, on avait eu un attaquant de premier plan qui coûte 6 millions de dollars par année puis qui la met tout le temps dedans comme Giovinco. Est-ce que l'impact serait au même endroit? Non, la réponse, c'est non. Mais est-ce que Joey Saputo est prêt à continuer de perdre plus d'argent pour aller chercher un gars qui va remplir le filet et qui nécessairement pas amènera pas plus d'abonnés de saison? C'est ça la question.
Tu auras le mot de la fin, Vincent, sur ce sujet?
Écoute, tu peux avoir du succès sans avoir une énorme masse salariale. Tu as un exemple, c'est le FC Dallas. Mais t'es l'exception là-dessus. Il y a toujours une exception. La réalité, c'est que la MLS d'aujourd'hui et la MLS telle qu'elle se transforme tend à ça. T'as le Toronto FC, t'as, comme l'a dit Jérémy, t'as Atlanta aussi. Il parle de Joseph Martinez, c'est même pas lui là le plus payé, c'est Miguel Almirón. Et Miguel Almirón, ils l'ont payé 11 millions, mais pas en salaire là. 11 millions pour le faire venir, puis ensuite tu le payes son salaire, puis t'as Joseph Martinez, puis t'as aussi Hector Villalba. Pour tous ces joueurs-là, ils ont dépensé du cash pour les faire venir, et ensuite ils les payent quasiment autant. Et là, Toronto FC, on sait c'est quoi leur recette depuis longtemps. Le Galaxy, c'est la même chose. La manière dont ça se passe, c'est que ça suit le processus, et ça commence à se calquer en fonction de ce qui se passe un petit peu ailleurs dans d'autres championnats, et on s'en va vers une MLS à deux vitesses. Si on continue pas à investir ou si on n'investit pas pour essayer de rattraper ces équipes-là. Chicago, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont investi comme des malades cette année et ça paye. Fait qu'effectivement, je pense que tu peux viser à être l'exception, mais disons que tes chances d'avoir du succès sont quand même moindres.
En fait, tu peux surprendre une année, mais l'année suivante, fort probablement, tu vas te retrouver à l'extérieur du portrait. C'est un peu ça.
Très intéressant.
L'exemple de Colorado, de l'année passée. Voilà.
Merci, Jérémy. Merci, Vincent. Je vous dis à très bientôt. On n'a pas d'émission demain et jeudi, mais très probablement vendredi qu'on va avoir l'occasion de se reparler de l'Impact. Merci,
parfait,
les gars.
Salut.
Bye-bye. Et quand je dis qu'il n'y a pas d'émission, c'est parce qu'il y a du hockey du Canadien. Vous comprenez, c'était le cas hier, l'avant-match à 18h30. Alors, ça nous procure quelques journées de réflexion pour vous offrir de meilleurs shows plus tard. Dans un instant, Danny Dubé est avec nous.